Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chloé, une coach sportive, coach en ligne basée en Suisse, fondatrice de Fit by Chloé, un business de coaching qui accompagne chaque année plusieurs centaines de personnes à atteindre leurs objectifs mais surtout changer leur vie. Dans cet épisode passionnant, Chloé va nous partager comment elle a trouvé ses premiers clients mais également comment est-ce qu'elle a bâti une audience sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle vend efficacement ses services mais surtout comment est-ce qu'elle les vend plus cher que la concurrence. Elle nous parlera aussi de comment est-ce qu'elle délivre une expérience hors du commun pour avoir des clients qui se transforment mais surtout qui sont extrêmement satisfaits de ses services et également de comment est-ce qu'elle a pu créer une équipe autour d'elle et autour de sa marque. Un épisode passionnant que j'ai kiffé tourner avec Chloé et que vous avez plutôt intérêt d'écouter ou de regarder jusqu'à la fin. Avant de démarrer cette session et très rapidement, si tu découvres la chaîne ou les épisodes pour la toute première fois, je m'appelle Lohan et chaque semaine, je sors des vidéos et des interviews pour les coachs qui cherchent plus de clients, qui veulent augmenter leurs revenus, mais surtout vivre librement grâce à leur passion. On parle de marketing, on parle de vente, de lifestyle, bref, tous ces sujets qui sont extrêmement importants quand on veut faire de cette passion un vrai métier rentable qui nous rend libre. Donc, si tu veux rien rater de ces informations extrêmement précieuses, du moins, j'essaye qu'elles le soient. N'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur le podcast ou à la chaîne YouTube, ou même les deux. Et surtout, je te demande un petit service. Si tu kiffes le contenu, que tu suives régulièrement ou que tu nous suives pour la toute première fois, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce ou une note 5 étoiles sur les plateformes de podcast. C'est le seul moyen pour moi et pour nous de nous faire connaître et ça peut aider d'autres coachs à l'avenir. Donc, mets-nous un petit pouce, abonne-toi, ça nous aide énormément. Je ne tarde pas plus, rentrons directement dans ce nouvel épisode. Chloé, salut à toi. Hyper content de t'avoir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Ça fait hyper plaisir de te recevoir.
Oui, je suis ravie d'être ici.
Ouais. Ça fait un petit moment que je te suis et je me suis dit, allez, je lui ai envoyé un petit message. On avait déjà échangé un petit peu. Je me suis dit, c'est la bonne personne pour passer sur le podcast. Et en tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invite.
Merci à toi pour l'invitation.
Ouais, sans plus tarder, j'ai déjà une première question qui va permettre et qui va aussi me permettre de découvrir davantage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi qui t'a amené à faire ça aujourd'hui? C'est quoi qui t'a amené à te lancer dans le coaching? Et oui, ça a commencé comment?
Alors, de base, je n'avais pas du tout prévu ça. Ça s'est vraiment fait plutôt naturellement. Donc, en fait, moi, j'ai commencé le fitness en 2015 et j'ai lancé mon business de coaching en 2018. Et en fait, quand j'ai commencé le fitness, j'ai lancé Instagram pour documenter un petit peu mon parcours, mais c'était plutôt pour moi, de base. C'était vraiment pour moi documenter ce que je faisais. Sauf que les gens ont accroché. Et du coup, bah, je me suis pris au jeu. J'ai de plus en plus partagé mes connaissances, des vidéos d'entraînement, etc. Et du coup, j'ai commencé à avoir des demandes de coaching. Et pendant 2-3 ans, donc entre 2016-2018, je disais toujours « je ne suis pas coach ». Et puis au fil du temps aussi de mon parcours privé, professionnel, je me suis dit « pourquoi pas me lancer dans le coaching ?» Donc j'ai fait une formation et puis c'est comme ça que je me suis lancée.
Tu faisais quoi avant?
J'étais dans le marketing.
Ok, d'accord. C'était en France, en Suisse?
En Suisse.
Ok. Et donc, du coup, donc si je comprends bien, c'est tu te mets à faire du sport et t'entraîner, tu documentes ton parcours, et là, tu as une petite audience qui se crée, notamment des gens qui veulent un petit peu en savoir plus et limite faire comme toi, qui te posent des questions, etc. Et là, tu te dis, ok, je me forme. Tu t'es formé où?
C'est une formation en Suisse.
Ok, c'est FitsPro?
Non, c'est pas FitsPro, c'est une autre. Okay. C'est un peu plus la même chose. Okay. Moins cher, mais j'y ai rien appris du tout. Mais voilà. Pour avoir le papier.
Où est-ce que tu as appris le plus, toi, du coup, par rapport à ça? Parce que, alors, c'est pas que voilà, pour la Suisse, alors moi aussi, hein, que tu saches, je me suis également formé en Suisse. J'y ai pas appris grand-chose non plus. Mmh. Et je pense que c'est un peu valable partout, en fait, peu importe où on se forme, je crois que c'est un peu valable partout. Du coup, toi, comment tu t'es formé et comment t'es monté en compétences rapidement dans ce métier?
Principalement avec des vidéos YouTube et après, sinon, simplement en me renseignant, ben, en lisant énormément d'articles, en cherchant sur Internet.
Divers français, anglais?
Anglais, vraiment, quasiment rien de français.
T'as des références ou des trucs que t'aimes bien suivre, que tu suis régulièrement et qui, toi, t'aident beaucoup?
Je dirais qu'une des ressources les plus... Enfin, une des personnes, disons, que je suis sur Instagram, qui a vraiment des ressources fiables, il y aurait Violaine, donc Lane Norton. Ça, c'est quelqu'un que je recommande, et puis toute son équipe, principalement. Après, moi, à l'époque, c'était en suivant Paul Revelia, le fondateur de la Team Pro Physique. C'est grâce à lui que j'ai... Au début, en fait, j'ai beaucoup appris grâce à lui.
Ok. Et est-ce que tu te souviens, alors ça c'est, je reviens un tout petit peu en arrière, donc tu partages ton quotidien sur les réseaux, tu as des gens qui te demandent des infos, etc. Est-ce que tu te souviens un petit peu qu'est-ce qui t'a fait le déclic de se dire, ok, je me lance dans le coaching et surtout j'y vais à fond, c'est-à-dire que je suis même capable de quitter mon job, etc. Est-ce que tu as un moment particulier, un déclic à un moment donné que tu as eu, que tu te rappelles, que tu te souviens?
Je dirais qu'il y a eu plus ou moins deux choses. La première, bah, c'est mon job en fait qui se passait pas bien du tout. De toute façon, je comptais arrêter. Et puis surtout, bah, je me suis rendu compte à ce moment-là que je voulais pas travailler toute ma vie derrière un bureau pour quelqu'un d'autre en fait. Faire des 7 heures, 17 heures tous les jours pour bosser pour quelqu'un d'autre en fait. Je me suis rendu compte que je m'en fichais et que vraiment je voulais suivre ben, ma passion en fait et travailler plutôt dans le fitness. Au final, je travaille quand même derrière un bureau toute la journée, mais au moins c'est pour moi. Et puis l'autre chose, c'était à l'époque, j'étais en couple avec mon copain de l'époque qui m'a un petit peu, pas qui m'a poussé, mais il m'a aidé à croire en moi en fait et à me dire. T'es pas obligé en fait de suivre un schéma tout tracé de tu fais des études, ensuite tu trouves un job dans une entreprise et tu fais une carrière et tu essayes de graduer dans l'entreprise. Mais simplement, bah, tu peux en fait suivre un autre chemin, en fait te lancer en tant qu'indépendante et puis développer ton truc.
Oui. Et est-ce que tu te souviens au début, du coup, donc tu te lances, ton boulot te plaît pas forcément, etc. Tu te lances en tant que coach. Si tu dois te rappeler un petit peu le tout début, tu sais, bah voilà, tu sors tout juste de formation, tu commences à coacher tes premiers clients, etc. Ça a été comment pour toi?
Alors, c'est allé très vite. J'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, j'ai commencé le coaching parce que justement, j'avais déjà beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, très rapidement.
Est-ce que c'est allé vite ou est-ce que le travail que tu faisais depuis quelque temps a pu payer rapidement parce que tu avais fourni ce travail-là en amont?
Et alors, clairement, c'est ça. C'est que pendant 2, 3 ans, j'ai alimenté mon compte Instagram. J'ai développé une sorte de légitimité, même si j'étais pas coach à l'époque. C'est ça qui m'a permis justement de pouvoir me lancer dans le coaching en ayant déjà de la demande. Et puis au début, bah c'est clair, quand on n'a pas d'expérience, bah voilà, on apprend en fait un petit peu en faisant. C'est en faisant qu'on se rend compte que bah coacher, c'est différent de ce qu'on pense. Et puis bah voilà, on s'adapte et on apprend au fil du temps. Et puis c'est pour ça que l'expérience est importante, en fait, c'est qu'on s'améliore en faisant. Et puis au début, bah, on a un petit peu cette idée qu'on n'est pas forcément légitime de faire ça. Des fois, je me disais, mais oui, mais je suis pas assez bonne pour ça. Et puis, en fait, c'est en faisant qu'on se rend compte qu'on est là, mais si, en fait.
T'as des exemples de blocage que t'as pu avoir justement par rapport à ce manque de légitimité, parce que je sais que c'est quelque chose qui est, franchement, je pense que 90% des personnes, même des coachs qui se lancent, y font face. Est-ce que tu as des exemples concrets de choses que tu te disais ou que tu pouvais croire à ce moment-là?
Alors, j'ai pas vraiment d'exemple concret. Disons que ça m'a jamais vraiment bloqué au point de me dire non, mais je peux pas faire ça. Je me suis toujours dit, bah, vas-y, et puis tu verras sur le moment. Mais je dirais qu'au tout début, et je pense que ça, c'est beaucoup de coachs qui pensent ça, on se dit, c'est juste la nutrition et le sport. On va juste dire à une personne, vas-y, suis ce plan, tu suis ces macros, tu suis ce plan alimentaire, peu importe, tu suis ce programme d'entraînement et c'est bon, tu auras des résultats. Et en fait, on se rend compte très, très, très rapidement qu'on fait face à des humains. Et que c'est bien plus complexe que ça, et qu'il faut, bah, moi je dis toujours, le coaching au final, c'est peut-être aller 5-10% nutrition et sport, et tout le reste c'est plutôt psychologie, mindset, etc. Et qu'en fait il faut réussir à s'adapter à la personne et travailler sur certaines croyances, sur certaines l'estime d'eux, qu'ils ont d'eux-mêmes, des schémas qu'ils ont intégrés toute leur vie. Et en fait il faut essayer de comprendre la personne et de trouver lui fournir en fait des outils pour passer au-dessus, pour que justement il puisse ensuite appliquer le plan. Et ça, c'est vraiment un des problèmes de beaucoup de coachs qui n'arrivent jamais à faire ça en fait, et qui du coup, bah, c'est pas des bons coachs parce qu'ils sont pas capables de coacher la personne. C'est vraiment ça, le coaching, c'est coacher quelqu'un, et c'est pas juste lui fournir un plan, et puis voilà, tu te démerdes, t'as qu'à appliquer.
Et ça, comme tu l'as dit, je pense qu'on s'en rend compte juste avec l'expérience, parce que personne ne nous explique ça à l'école, parce que nous, en fait, en formation, bouquin, ou même peu importe ce qu'on veut, personne nous dit que ça va être si compliqué que ça à transformer quelqu'un, du moins la grande majorité des gens. Il y a, en effet, moi, si je me revois en arrière au tout début, pour moi, le coaching, c'était ça, c'était tu donnes un plan, tu donnes les reps, tu donnes les temps de repos, Et puis dans 3 mois, tu fais un bilan et tu vois comment ça s'est passé, tu vois.
C'est exactement ça. Et c'est ça d'ailleurs qui est vraiment dommage. Déjà, durant les formations, comme tu as dit avant, toi aussi tu as fait une formation, c'était pas top. Déjà, au niveau nutrition et sport, surtout en Europe, j'ai envie de dire, on a déjà beaucoup de retard sur les connaissances. Moi, pendant ma formation, j'ai appris de ces trucs, mais ça m'hallucinait. Par exemple, tu fais un squat, il ne faut pas que les genoux dépassent la pointe des pieds. On apprend encore ça en formation. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il n'y a pas justement tout cet aspect mindset, psychologie, dans les formations pour devenir coach.
Alors, c'est hyper intéressant et je suis trop content qu'on aille sur un sujet comme ça. Pour moi, alors on va parler psychologie. Donc, on va commencer par le sujet de la psychologie du client et de la personne. Selon toi, qu'est-ce que tu fais et quelles sont selon toi les bonnes pratiques justement pour maximiser les chances de transformer quelqu'un et de lui faire atteindre, enfin, je pars du point A et lui faire atteindre son objectif au point B. Selon toi, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les grands principes? Et est-ce que tu as déjà des tips ou des choses que toi tu utilises justement pour faire en sorte que ton coaching soit efficace et fonctionne?
C'est une question très très large et
Ouais.
très difficile à répondre parce qu'en fait c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a vraiment pas, tu vois, je ne peux pas vraiment te donner une formule magique, on va dire, que tu appliques ça au client et puis
Mais
tu as
déjà, juste pour resserrer un petit, recibler un petit peu ma question, déjà, tu as dit au cas par cas. Et ça, je trouve déjà que c'est déjà hyper intéressant parce qu'il y a des gens qui font même pas de cas par cas. C'est-à-dire, je donne un programme, j'attends et je fais pas du tout de cas par cas. C'est-à-dire que je ne m'occupe même pas de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ça donne un élément de réponse cool, tu vois. Je te laisse continuer là-dessus.
Ouais, alors je rebondis juste sur ce que tu dis parce que ça, c'est vraiment aussi bah, justement un des fléaux du coaching actuellement. C'est que bah, il y a de plus en plus de coachs en ligne. Vraiment, ça c'est depuis, je dirais depuis le Covid, ça a vraiment explosé, démultiplié. Et il y a énormément de coachs en ligne qui font en fait du copier-coller, qui envoient juste des protocoles comme ça. Et qui ne font pas de personnalisé. Et justement, c'est pas du coaching, en fait. Et d'ailleurs, c'est un immense
C'est de
problème.
l'e-commerce. C'est de
Voilà,
l'e-commerce.
c'est ça. Et c'est un immense problème aussi pour les clients ou les potentiels clients, parce qu'ils n'ont plus du tout cette notion de coaching, de ce qu'est un vrai coaching. Et du coup, ils ne donnent plus non plus aucune valeur au coach, au bon coach, et au coaching d'une manière générale. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose bah, que, personnellement, dans mon business actuellement, je dois faire face, c'est les gens qui ne voient pas la valeur d'un coaching parce qu'ils ont l'habitude de ces copier-coller justement et qui du coup pensent qu'un coaching ça coûte par exemple 30 euros par mois. On a eu cette semaine par exemple, j'ai une de mes coachs qui a eu un call avec une potentielle cliente et elle a dit bah voilà, j'ai un budget de 30 euros par mois. Et ça c'est vraiment, c'est même pas, au bout d'un moment, c'est même plus de l'ignorance, c'est presque de l'irrespect pour le coach et le travail du coach. Mais vraiment, les gens n'ont plus du tout cette notion de valeur d'un coaching et ne se rendent pas compte aussi qu'un coaching, ça reste quand même un luxe. Le coaching, c'est tellement démocratisé que tout le monde pense qu'il peut se permettre d'avoir un coach. Mais ouais, du coup, voilà, comme tu as dit.
Mais est-ce que tu penses pas, parce que là, tu vois, on pourrait se dire, et moi, je sais, parce que je parle avec des coachs tous les jours, et il y a des gens qui vont dire, les gens ne voient pas la valeur du coaching, ils sous-estiment notre métier, etc. Mais est-ce qu'au final, ce n'est pas justement notre faute, à nous, et quand je dis nous, alors déjà, c'est nous les coachs, mais également peut-être les gens qui nous forment initialement, qui ne nous expliquent pas comment nous vendre, quels sont les prix, quelle est notre vraie valeur, comment communiquer efficacement, etc. Parce qu'au final, si les gens estiment que... Un coaching, ça vaut 30 euros. Bah, c'est que la personne qu'elle avait eue avant toi lui avait présenté un truc similaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, je pense que c'est un peu notre faute. Et si on compare d'ailleurs, toi qui regardes beaucoup de trucs anglophones, je pense qu'il y a, je ne sais pas si tu en penses, ce que tu en penses, mais il y a un monde entre un coach dans des pays, je pense aux États-Unis, je pense à l'Australie par exemple, où ils ont des statuts limite de stars, et nous parfois avec un rôle un peu plus réduit, on va dire, voire sous-métier, si je peux appeler ça comme ça.
Non, alors totalement, totalement. Moi, après, ce que je dis toujours, c'est qu'un coaching de qualité, on paye entre 200 et 400 par mois. Presque minimum, on peut aller même jusqu'à 600 par mois, facilement. Mais oui, le problème, c'est vraiment ça, c'est les coachs qui, justement, alors soit ils croient pas en eux-mêmes, et du coup, ils bradent vraiment leur prix parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas légitimes et qu'ils ne peuvent pas faire payer les gens. Et que du coup, ils mettent des prix à 50-100 euros, même pour un suivi relativement personnalisé ou de qualité. Ils considèrent qu'ils n'ont pas une valeur suffisante, donc vraiment, ils baissent leur prix. Ou alors, c'est justement qu'ils proposent des suivis qui ne sont pas personnalisés. Ils font du coaching de masse, donc c'est vraiment avoir le plus de clients possible pour ramener le plus d'argent possible. Et là, ils font aussi des suivis à 30, 50 euros. Alors qu'en fait, c'est du copier-coller qui market sous du coaching personnalisé, mais ça n'en est pas. Mais clairement, ça vient... la faute, en fait, c'est les coachs qui, justement, bradent leur prix ou qui font des coachings à 50 euros par mois. Donc oui, ça, c'est tout à fait notre faute. Et après, c'est dur, justement, quand on propose un vrai coaching de qualité, de se justifier, en fait, que ton coaching, non, il ne coûte pas 50 euros, il coûte plutôt 300 ou 400.
Et toi, si tu devais désigner, entre guillemets, des responsables un petit peu de ça, tu mettrais qui?
Les coachs, justement, qui font du coaching de masse, en fait. C'est-à-dire qui ne proposent pas du personnalisé, qui disent que c'est du personnalisé, mais ça n'en est pas, et qui jouent là-dessus.
Donc, généralement, des personnes qui ont des grosses audiences, plutôt?
Plutôt. Pas toujours, mais plutôt. Ouais, moi, j'en connais beaucoup, donc à force d'avoir des clients, j'ai des consultations avec des personnes quasiment tous les jours qui viennent justement de ces coachs. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Toujours les mêmes noms, c'est des gros, gros comptes. J'ai fait un coaching avec X qui vend justement du personnalisé. En fait, c'est le copier-coller.
Ça s'est mal passé, je me suis sentie toute seule, personne n'était là pour moi, et puis voilà.
Voilà, c'est... Oui, du coaching personnalisé, mais la personne, elle court après le coach pendant 3 semaines pour avoir une seule réponse. C'est pas du personnalisé, ça.
Ouais. C'est un peu un combat de tous les jours, parce que même, tu vois, alors déjà pour les clients, c'est un problème, c'est-à-dire que eux, déjà, ils ont été habitués à ça, c'est-à-dire des bas prix pour une qualité très réduite, voire médiocre. Et je trouve que c'est aussi un problème même pour les coachs, parce que souvent, on peut penser que c'est ça le coaching, notamment en ligne. Et du coup, on se fait une mauvaise image de qu'est-ce que c'est qu'un coaching de qualité et comment est-ce qu'on délivre un accompagnement en ligne, même si j'aime pas trop l'appeler comme ça, à distance, peu importe comment on a envie de l'appeler, de qualité. Selon toi, c'est quoi les critères d'un taf qualitatif qui vaut justement ces 200, 300, 400, 600, il y en a même qui font plus que ça. Après, chacun choisit un petit peu sa gamme de prix. Mais selon toi, c'est quoi le minimum syndical pour être un coach efficace qui délivre correctement?
Alors, c'est tout d'abord, première chose, poser des questions aux clients ou aux futurs clients. Je vais plutôt me mettre du côté d'un client qui pense engager un coach. Si le coach ne vous pose pas de questions sur vous, donc outre juste votre âge, votre poids, votre sexe et votre taille, mais qui ne va pas un petit peu creuser, quelles sont tes habitudes,
qui s'en bat les couilles, pour la faire simple.
Exactement. Il s'en fout, en fait, de vous en tant qu'humain. Donc, vraiment, habitudes, préférences, emploi du temps, responsabilité, vie familiale, vie professionnelle, etc. Le coach doit savoir tout ça pour vous. Donc, déjà, qui s'intéresse, en fait, à la personne. Ensuite, qui fournisse un plan adapté à la personne. Donc, en fonction des réponses qu'il a reçues, que le plan soit adapté. Donc, si la personne te dit, par exemple, je peux m'entraîner que 2 fois par semaine, pas qu'il fournisse un plan d'entraînement avec 3 ou 4 entraînements par semaine. Si la personne dit, je galère avec ça, que le coach puisse trouver des solutions, apporte des solutions, en fait, au client en fonction de ce que le client a dit. Que le coach soit présent pour la personne, disponible. Que le client ne doive pas lui courir après pendant 3 semaines pour avoir une réponse. Que le suivi se fasse régulièrement. Donc, pas que le coach, en fait, disparaisse pendant un mois. Et après un mois, on change ça. Et il y a certains coachs aussi qui ne répondent pas aux questions volontairement pour que le client dépende du coach, en fait. Le but d'un coaching, c'est que la personne soit indépendante le plus rapidement possible. Que le plus vite possible, la personne soit capable de gérer elle-même son alimentation, son entraînement, et qu'elle n'ait plus besoin du coach. Alors, ça prend du temps. Je ne dis pas en un mois, c'est bon, la personne sera capable de tout faire toute seule. Non, ça peut prendre 1 année, 2 ans. Mais qu'au fil du temps, qu'à terme, en fait, elle soit capable de gérer tout ça elle-même. Et certains coachs, qui sont donc des mauvais coachs, vont tout faire pour que la personne dépende de lui. Et donc, répond pas aux questions, explique pas pourquoi ils font les choses, etc. Alors qu'un client, s'il comprend pas pourquoi il doit faire quelque chose, il va pas le faire. S'il voit pas l'intérêt de le faire ou pourquoi on doit faire ça, il va pas s'y tenir. Un coach qui essaye de rendre dépendant le client, c'est pas un bon coach. et puis, des bilans réguliers. Voilà ce que je disais.
Je... Ça m'a levé plein de petites questions sur ce que tu viens de partager là. La première, c'est justement là, celle que enfin, ce sur quoi tu as fini là, la régularité dans le suivi, et tu as dit il faut pas que le coach disparaisse à un moment donné. De mes observations, je vois beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément leur faute, c'est aussi les croyances qu'ils peuvent avoir sur le coaching, notamment en ligne, etc., de dire bah, en fait, je donne un programme Nutri, je donne un programme, un plan d'entraînement, je leur donne, et s'ils ne me posent pas de questions, tant mieux. Ils font tout seuls, ils se débrouillent et moi, ça me donne moins de travail et au moins, je peux prendre plus de clients. J'ai beaucoup de personnes qui raisonnent comme ça et je pense que c'est vraiment la pire erreur à commettre. Laisser des clients dans la nature, sans nouvelles, sans les prendre en considération. Beaucoup de personnes le font, très peu le disent, mais ils espèrent entre guillemets que leurs clients ne leur demanderont jamais rien, alors que si on veut quelqu'un qui est satisfait, heureux, qui a des résultats, c'est hyper important d'avoir des points de contact qui soient extrêmement réguliers. Simplement pour leur montrer qu'on est là, même si tout se passe bien en fait en réalité. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Oui, alors après, du moment qu'il y a justement en fait, il y a aussi une chose importante, c'est dès le début du coaching, mettre en place des règles et un fonctionnement et par exemple, mettre en place des bilans régulièrement. Donc, par exemple, c'est un bilan chaque semaine. Et chaque semaine, bah, tu demandes au client de revenir vers toi avec un questionnaire rempli, avec un fichier rempli, avec des données en fait. Ça, c'est aussi super important, c'est d'avoir. De rendre responsable le client, de lui dire, OK, chaque dimanche, tu dois m'envoyer tous ces documents remplis en temps, en heure. Et puis, bah justement, si tu n'as pas de nouvelles du client, bah, ouais, tu ne vas pas le laisser comme ça. S'il fait pas son bilan chaque dimanche, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un blocage, il y a peut-être quelque chose qui. Il n'avance peut-être pas. Je donne un exemple, mais peut-être qu'il n'avance pas aussi vite que ce qu'il aimerait. Du coup, ça le décourage et du coup, il se sent pas assez bien pour faire les bilans. Enfin, voilà, mais il faut aller poser les questions, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne fais pas tes bilans? Après, si c'est vraiment juste quelqu'un qui n'est pas impliqué, au bout d'un moment, il faut lui dire, OK, c'était pas suffisamment impliqué. Voilà. Mais il faut quand même aller chercher. Donc, ouais. Donc, prendre contact avec le client, effectivement, pas le laisser comme ça. Et puis, le soutenir. Mais le pire, c'est encore si le client, lui, te contacte et tu lui
Et que
donnes
tu
pas de
réponds pas.
nouvelles et que tu réponds pas. Ça, c'est ça le plus gros problème. Et moi, j'en entends énormément, des choses comme ça.
Ouais, je pense que, enfin, oui, il y en a énormément. Juste pour rebondir là-dessus, parce que parfois, je crois comprendre, en tout cas, si je dois revenir quelques années en arrière, je me disais, mais voilà, moins quelqu'un me prend de temps, plus je vais pouvoir prendre de monde. C'était un petit peu ma logique de départ, ce qui est vrai, théoriquement. Et du coup, je me disais, en tout cas, c'était ma perception, et je sais que beaucoup de personnes qui écoutent peuvent penser ça. Moins je donne de contact, points de contact avec mes clients, plus je peux en prendre, plus je vais gagner d'argent, mais meilleure sera mon activité ou mon business. Ce que j'ai remarqué à chaque fois que j'ai essayé moi de faire ça par le passé, ça a toujours fait bugger le business, c'est-à-dire des gens moins contents, des gens qui restent moins longtemps aussi. Une satisfaction en baisse et même pour moi un plaisir en baisse parce que je gère plus de problèmes que si je fais des points de contact réguliers. Beaucoup de personnes pourraient se dire, mais si je fais des points de contact réguliers avec les gens, je pourrais pas prendre un nombre quasi illimité de clients. Il y a plein d'options qui sont possibles maintenant pour pouvoir prendre plus de monde en conservant la qualité. Qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui pour pouvoir avoir une activité qui grandit tout en conservant à minima la qualité de suivi de tes clients?
Alors, justement, c'est ça dans le coaching personnalisé, c'est qu'on pourra jamais prendre un nombre illimité de clients. C'est vraiment ça la différence entre du coaching personnalisé et du coaching de masse. Coaching de masse, tu peux prendre bah, 400, 500, 600 clients, peu importe le nombre de clients que tu as, tu peux en prendre. Dans le coaching personnalisé, tu auras forcément un nombre maximal de clients que tu peux prendre. Et en dépassant ce nombre, bah, ton suivi, la qualité de ton suivi en prend un coup. Tu vas pas pouvoir assurer une bonne qualité de suivi si tu
C'est
prends.
quoi pour toi le nombre approximatif max de personnes que toi tu peux gérer seul?
Alors, moi, ce qu'il y a, c'est que maintenant, je ne fais pas que du coaching. J'ai une team de coachs. J'ai
Ouais.
8 coachs dans ma team que je dois gérer. Donc, j'ai d'autres choses. J'ai mes réseaux. J'ai le compte de la team à gérer. J'ai énormément à gérer à côté du coaching. Donc, actuellement, moi, ça fait bientôt 2 ans que je ne prends plus de nouveaux clients parce que je ne peux pas.
Et une coach pourrait gérer, enfin, une personne peut gérer combien de personnes selon toi?
Alors, ben, en fait, c'est justement, ça dépend. Ce qu'elle a à côté à faire.
OK.
Moi, ben, certaines de mes coachs ont des business à côté. Par exemple, j'ai une coach qui est spécialisée en santé hormonale. Elle est aussi coach de CrossFit. Et du coup, ben, voilà, elle doit faire en fonction du temps qu'elle a à disposition. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend du temps libre qu'elle veut aussi avoir pour elle. Je dirais qu'un coach peut gérer facilement entre 30 et 60 clients. Je sais que mon coach, par exemple, a facilement presque 100 clients. Donc, franchement, ça dépend
Ouais.
des gens. Mais lui, il fait vraiment des check-ins, enfin, il gère ses coachings du lundi au vendredi, de 9 h le matin à 17 h le soir. Il fait que ça, tu vois. Donc, c'est dur à dire. Mais je dirais que 100, c'est un petit peu là, vraiment le max pour un coach à 100%.
Ouais. Pourquoi je te pose volontairement cette question, c'est que donc tu me diras ce que tu en penses et tu as commencé à y répondre. Au début, tu disais bah c'est pas forcément possible de prendre un nombre illimité de clients. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. D'accord parce que, en effet, je pense que autant sur le temps qu'on y passe, l'espace mental, enfin la charge mentale que ça demande, l'organisation que ça demande, et puis on a aussi une vie à côté quand même. Tu vois, je me dis, déjà on est limité de base. C'est-à-dire que si on fait un suivi de qualité, moi j'ai une théorie qui dit qu'entre 20 et 40, on arrive à être bien, plus on arrive à se recharger les batteries à côté, etc., et avoir un bel équilibre. Mais au-delà de ça, il y a souvent un truc que des personnes ne pensent pas, et bah toi tu l'as très bien fait, c'est de s'entourer en fait d'autres coachs qui peuvent prendre aussi des clients supplémentaires, et comme ça, grâce à ça, tu peux grossir ton pool de clients, on peut appeler ça comme ça. Et ça, beaucoup de personnes n'y pensent pas ou pensent pas que c'est possible, mais c'est possible de créer une team en fait avec soi et qui nous permet d'accompagner plus de monde. Et c'est ce que tu as fait.
Ouais. Après, je comprends aussi que ce soit pas facile à faire parce que même moi au début, je me disais, personne voudra venir avec moi. En fait, pourquoi quelqu'un voudrait ça? Après, moi, j'ai la chance d'avoir une communauté sur les réseaux. J'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis à 50 000, mais ça aide quand même. T'as quand même une image, t'as une légitimité, t'as un nom. Mais c'est vrai que voilà, si j'avais pas eu ça, je pense pas que j'aurais pu créer une team en fait. Donc je pense
Ouais.
enfin quoi que c'est pas impossible, hein, pas du tout,
Ouais.
mais
J'ai plein de contre-exemples quand même, tu vois, parce qu'en fait, je me dis, alors j'ai plein de contre-exemples de gens qui n'ont pas forcément de communauté et qui arrivent à créer, tu vois, comment dire, un petit réseau de coach qui vient les aider, tu vois, un peu, tu vois, comme une salle de sport recruterait des coachs pour bosser avec eux dans une salle, alors que c'est une salle qui n'est pas forcément connue, tu vois. Ce que moi, j'ai l'impression, c'est qu'il faut juste pas oublier qu'il y a déjà des coachs qui sont bah, passionnés comme nous et qui seraient OK pour bosser sur une activité qui a des clients, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas ou galèrent. Il y en a beaucoup qui ont un job à côté, qui n'ont pas le temps pour leur coaching et à qui ça arrange bien, tu vois, de prendre quelques clients, qu'on leur apporte sur un plateau et de les accompagner, etc. Il y a aussi d'autres personnes qui ont envie d'apprendre à nos côtés. Je pense que c'est beaucoup ton cas chez toi. C'est des gens qui sont hyper contents d'apprendre à tes côtés, à travailler avec tes clients, ta méthode de travail, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de façons. Je pense, en tout cas, ma vision, c'est que les gens adhèrent à notre vision et de ce qu'on a envie de mettre en place. Et je pense que les gens qui bossent avec toi, ils ont d'abord à adhérer à ta vision, c'est-à-dire qu'est-ce que tu voulais mettre en place, le nombre de personnes que tu voulais aider, les valeurs que tu retransmets déjà beaucoup. Et je pense que c'est ça qui a fait une grosse différence, plus que la communauté. Je sais pas ce que tu.
Oui, non, c'est totalement ça. Après, c'est clair que les coachs qui ont rejoint ma team, c'était pas juste pour le nom. C'est clairement que voilà, elles ont les mêmes valeurs que moi. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je les ai prises. Hein. C'est parce qu'on partage vraiment la même vision, les mêmes valeurs. Et puis c'est aussi ce que les gens ressentent. C'est aussi pour ça qu'on a des clients et de la demande justement. C'est que les clients voient nos valeurs et c'est ça qui les fait vouloir travailler avec nous.
Ouais, je sais pas comment t'as perçu cette phase de transition entre t'es toute seule à grossir ton activité et tu crées une team avec toi. Pour moi, c'est un tout autre métier.
Oui, alors en fait j'aurais pu le faire bien avant parce que j'ai créé la team du coup en 2021. Donc en 2018 et 2021 j'étais toute seule et honnêtement j'avais tellement de demandes que j'avais une liste d'attente, mais j'avais des centaines de personnes sur liste d'attente. Et mon gros problème, et encore presque encore maintenant, c'est que je ne demande jamais d'aide. Je n'aime pas demander de l'aide. Je sais, ça, je travaille dessus. mais en 2021, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai eu un peu un déclic et je me suis dit, mais en fait, demande de l'aide. En fait, entoure-toi et comme ça, tu pourras bah, justement prendre tous ces clients sur liste d'attente. Et voilà, du coup, bah, j'ai pris ma première coach en 2021.
Ouais, c'est top. Aujourd'hui et depuis 2018, est-ce que tu as une idée du nombre de personnes que toi et ta team vous avez déjà accompagnées?
Alors, il y a des centaines, ça c'est sûr. Après, je suis très très nulle pour tout ce qui est statistique et suivi. Franchement, il faudrait.
Il faudrait, ça c'est sûr et certain qu'il faudrait, ça c'est sûr.
Ouais, non, je ne sais rien du tout. Mais ouais, on a.
À peu près mensuellement, aujourd'hui, qu'on a un ordre d'idée, ça représente combien de personnes à peu près tous les mois que vous avez? Beaucoup.
Oui. J'arrive même pas à dire comme ça. Non, pas
Ok.
mal.
On est plus proche de 50,
Plus.
250.
Je dirais, ouais, 200, peut-être.
Ouais, sur l'ensemble des coachs, etc. Ah, c'est
Ouais.
bien, ça fait du monde à gérer entre les coachs, les membres, etc. Ça fait du taf.
Ouais.
C'est quoi, toi, quand tu observes un petit peu, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur ce qu'on disait. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on a parlé un peu des gens avec les grosses audiences qui vendaient du coaching un peu à l'arrache, en fait, on va dire, ce qui n'est même pas du coaching, en fait. Aussi, les nouveaux qui arrivent sur le marché, la quantité de coachs astronomiques qui sort aussi chaque trimestre. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ce métier? Selon toi, ça va être quoi un peu les tendances?
C'est une très bonne question que je me pose aussi. J'ai pas vraiment de réponse, honnêtement. Je sais pas trop.
Je te partage un truc, c'est mes réflexions du moment, tu vois, en essayant d'anticiper. J'ai l'impression que ça va se segmenter sévère. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que il y aura soit les très très bons, soit les, on va dire, soit les très très bons qui vont vraiment faire du coaching haut de gamme, qui auront pigé un petit peu le truc que toi t'as déjà pigé il y a un petit moment, c'est-à-dire vendre des coachings haut de gamme, apporter de la qualité, avoir des clients qui sont contents, qui nous recommandent, etc., et qui vont réussir à grossir des gros business. Soit je pense que la durée de vie d'un coach, elle va être encore plus réduite, c'est-à-dire que c'est les gens qui auront encore moins de business, encore moins d'activité, et ce sera très très dur, et même de plus en plus dur. Et je crois que c'est déjà un peu le cas dès maintenant.
Ouais, alors non, alors pour ça, je te rejoins tout à fait. Je pense que ça va s'essouffler pour les coachs qui ne proposent pas des suivis de qualité. Justement, qu'au bout d'un moment, les gens vont comprendre que des coachings à 50 euros, ça n'apporte presque rien.
Mais je pense que les gens ont déjà compris.
Non,
Encore certains qui sont à leur coup d'essai, qui ne se sont jamais fait, entre guillemets, avoir. Mais les
je
gens
pense
sont de
que
plus en plus. Ouais.
ça va. Ouais, je pense que ça va encore aller quelques petites années. En tout cas, des appels qu'on a, pour le moment, les gens ne se rendent pas encore vraiment compte. Mais je pense que ça, ouais, ça va aller dans ce sens. C'est vraiment, voilà, ceux qui voyaient le coaching en ligne comme une solution magique pour gagner plein de thunes en voyageant dans le monde entier, mais en proposant des coachings qui sont pas de qualité, ça va s'essouffler assez vite.
Ouais. Ouais, parce que de toute façon, les gens vont le savoir de plus en plus. Le bouche à oreille se fait aussi assez rapidement sur ces types de business-là. Hein. C'est-à-dire que ça se sait, les gens parlent entre eux. Et moi, j'aime bien dire un truc, c'est un truc dont on ne se rend pas compte. Je sais pas si toi, tu l'as déjà mesuré pour toi, mais moi, c'est ce que j'appelle la force invisible du bouche à oreille positif ou négatif. C'est-à-dire que on s'en rend pas compte, mais en fait, dans notre dos, sans qu'on le sache, les gens, ils se parlent sur les réseaux, les abonnés, etc., etc. Ils voient les témoignages, ils se demandent des conseils, etc. Et si on fait un taf de merde, ça se saura. Et sans qu'on le sache, on va perdre des ventes mois après mois et ça va être exponentiel. Et dans l'autre sens, quand on fait quelque chose de qualité, ça va se savoir. Dans notre dos, sans qu'on le sache, on aura un bouche à oreille positif et c'est une force qui va nous pousser et qui va nous faire avoir des ventes sans même qu'on s'en rende compte, ou du moins qui arriveront de nulle part. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça sur le long terme. Du moins si on veut un business sur le long terme.
Ouais, alors, clairement, c'est vraiment. Si tu fais du bon taf, ça c'est. Si tu fais pas du bon
Ouais.
taf, c'est aussi. Et oui, tu la remarques.
Ouais. J'ai une autre question pour toi, Chloé. Là, plus par rapport aux stratégies pour, entre guillemets, obtenir de nouveaux clients ou clientes. Tu disais tout à l'heure que toi, tu avais eu la chance de lancer rapidement parce que tu avais déjà des réseaux, tu avais déjà une communauté qui s'était formée, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un aujourd'hui? Donc, c'est quelqu'un qui est un coach, qui veut travailler intelligemment, évidemment, qui veut délivrer du coaching de qualité. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne si il veut rapidement déjà créer un nombre de prospects suffisant, mais surtout avoir des gens qui sont prêts à acheter ces coachings ou ces services. Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Sur quelle plateforme? Quel type de contenu? Est-ce que tu as des idées par rapport à ça?
Alors, j'ai envie de dire la forme, c'est pas forcément la plus importante, mais je dirais se montrer et parler beaucoup de son expérience pour que les gens puissent un petit peu comment dire, s'identifier et se dire, ah oui, c'est un humain en fait qui est en face de moi et il va me comprendre. Et à côté de ça, prouver, j'ai envie de dire, ses compétences, ses connaissances. Donc, en fait, se créer un statut, une certaine légitimité et montrer, j'ai les connaissances, je sais de quoi je parle, éventuellement, je suis passé par là, voici ce que j'ai vécu. Et en fait, avec tout ça, tu vends une solution. Et c'est ce que la personne a besoin. La personne, au final, elle s'en fout concrètement qu'elle va recevoir un plan alimentaire, que tu vas regarder ses vidéos d'entraînement, c'est pas ce qu'elle veut savoir. Ce qu'elle veut savoir, c'est comment tu peux l'aider et qu'est-ce que tu vas lui apporter. C'est je veux perdre du poids, est-ce que tu peux m'apporter ça ou pas? Donc voilà, c'est un mix un petit peu de tout ça. Après, au niveau des formats, bah, faire des vidéos, faire des réels, faire des posts écrits, éducatifs, faire un mix un petit peu de tout ça, mais toujours essayer d'aller sur l'émotionnel, en fait. Essayer de toucher la personne. Tu souffres de ça, moi, je peux t'apporter ça pour que tu ailles mieux.
T'as parlé d'un truc qui est hyper intéressant, important, et j'ai l'impression que c'est le socle des plus belles histoires de coach qui existent, ou du moins que je connaisse, c'est raconter son histoire, en fait.
Ouais. Bah, j'ai aussi envie de dire que c'est les personnes qui ont vécu des choses qui deviennent un petit peu les meilleurs coachs parce que, bah, ils savent ce que c'est. Je vais donner mon exemple parce que je ne peux pas parler pour les autres. Mais moi, j'ai créé la team parce que j'ai un peu tout vécu, j'ai envie de dire. Donc, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. J'ai fait des concours, enfin, je suis pro bodybuilding. J'ai eu des problèmes de digestion, j'ai des problèmes hormonaux. J'ai un peu tout vécu et du coup, je sais à quel point ben, voilà, on se sent découragé, démuni quand on vit tout ça. Et du coup, mon but, c'est d'apporter en fait des solutions et d'apporter du soutien à ces personnes-là. Et du coup, ouais, moi, j'essaie de raconter mon histoire pour montrer qu'on peut s'en sortir, qu'on peut aller mieux, qu'on peut se transformer, etc. Et puis, ben, la plupart des coachs qui sont... qui réussissent, c'est parce qu'eux aussi ont vécu des choses comme ça. Alors, pas la même chose que moi, mais des expériences de vie qui font que, voilà, ils ont appris grâce à ces expériences et ils ont développé une certaine compassion pour les gens et ils ont envie d'aider. Ils ont réellement envie d'aider. Et ça, c'est aussi une chose, ben, dans le coaching, si on le fait ça pour l'argent, on ne va pas y arriver. Si la seule motivation de devenir coach, c'est de me faire des thunes et puis pouvoir voyager dans le monde entier en gagnant de l'argent en distance, on ne va pas y arriver. La première motivation d'un coach, ça doit être vraiment d'aider la personne.
Quand tu... Je retourne sur l'histoire, le fait de raconter son histoire, parce que personnellement, je sais ô combien c'est puissant. D'un point de vue marketing, mais pour plein de choses, hein, que ce soit pour attirer des clients, pour vendre ses services ou même pour aider encore plus nos clients. Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec le fait de raconter ton histoire personnelle?
Oui, totalement. Totalement.
Alors, mauvaise question du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'ose pas le faire ou qui ne le fait pas encore?
En fait, il faut que la personne soit prête. Si la personne essaye de se forcer ou se dit il faut absolument que je parle de ça pour avoir des clients, ça va pas, c'est pas authentique et les followers vont le sentir en fait. Si t'es pas, c'est aussi une des choses, c'est que justement ce que tu partages sur les réseaux, ça doit venir de ce que t'as envie toi de partager. Tu dois être aligné en fait avec toi-même et s'il y a quelque chose que t'es pas prêt de parler, s'il y a quelque chose qui est encore trop difficile pour toi de t'ouvrir, ben ne le fais pas en fait. Attends d'être vraiment prêt. Après, donner des conseils par rapport à ça.
Ouais. Si c'était simple pour toi, c'est pas. Non, mais, peut-être le conseil, ça va. Alors peut-être je peux te changer encore la question et de dire est-ce que tu peux partager selon toi à quel point raconter des histoires, qu'elles soient personnelles ou même des histoires, on peut raconter les histoires de nos clients par exemple ou de nos clientes, à quel point c'est important justement pour aider les gens à prendre des décisions et leur montrer que c'est possible pour eux.
Bah c'est exactement ce que tu viens de dire en fait, c'est voir que c'est possible pour d'autres personnes, donc pourquoi ça ne le serait pas pour moi, en fait. De nouveau, bah, c'est toucher l'émotionnel. C'est cette personne a réussi, elle est passée par tout ça, moi, je suis en train de vivre ça, du coup, je peux aussi y arriver, en fait. Et c'est de nouveau de l'identification. C'est essayer de se projeter, en fait, grâce à quelqu'un d'autre et se dire, bon, bah, moi aussi, je veux ça ou moi aussi, je peux y arriver et voir, en fait, que c'est possible. La plupart des gens ne passent pas le cap parce qu'ils pensent qu'ils n'en sont pas capables, que c'est un objectif trop ambitieux ou qu'ils n'en sont pas capables, ils ne croient pas en eux. Et du coup, ben, voilà, ça aide justement les personnes à se dire non, mais en fait, je peux y arriver.
Et je pense que c'est hyper important. Je rebondis vraiment là-dessus. Ça, je l'ai compris peut-être il y a 2 ans, moi perso, max, que le problème, ce n'est pas qu'on est mauvais ou qu'on n'est pas un bon coach ou quoi. C'est souvent que les gens, ils n'ont juste pas confiance parce qu'on ne leur a jamais appris à avoir confiance en eux.
Ouais, totalement.
Et du coup, ils ont peur de... Ouais, juste peur d'échouer, peur de passer pour des cons, peur de ne pas y arriver, peur que ça marche une nouvelle fois, pas encore. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Ça ne marche pas encore une nouvelle fois.
Si, souvent, c'est peur de l'échec. beaucoup, beaucoup de honte par rapport à ça, ou même pire, peur de réussir, et ils pensent qu'ils ne méritent pas d'y arriver. Il y a beaucoup aussi, ben moi, ce qu'on voit dans le coaching, c'est beaucoup d'auto-sabotage, parce que dès que tout va trop bien et qu'ils progressent, en fait, ça va trop bien. Et j'ai le risque de réussir, et ben, ils pensent que ah ben, je ne mérite pas d'y arriver. Donc, en fait, ils s'auto-sabotent parce qu'ils ont cette croyance que ben, je ne suis pas assez bien pour avoir ça, en fait. De nouveau, là, on va sur le psychologique plutôt.
Est-ce que depuis 2018, est-ce que tu as en tête c'est quoi ta plus belle histoire? Est-ce que tu as une histoire de client qui t'a marqué ou une anecdote ou quelqu'un plus qu'un autre? Ou quelqu'un qui était mal parti et qui d'un coup s'est transformé?
Je dirais, c'est difficile à dire parce qu'il y a eu, j'en ai eu beaucoup en fait qui, clairement, ben voilà, au début étaient dans certaines filles étaient dans ces états vraiment, mais assez misérables, autant au niveau sur un peu tous les niveaux en fait. Et puis oui, j'ai eu des vraiment belles transformations qui ont au final transformé leur vie entière en fait. C'est pas juste transformation physique ou qu'elles sont devenues plus fortes, elles font des squats de 50 à 80 kilos. Non, c'était vraiment, voilà, elles ont peut-être changé de job, elles ont changé de relation. Et puis, en fait, tu vois vraiment la transformation de la personne qui était vraiment, qui essayait de se faire la plus petite possible, qui avait l'impression que, bah, qu'elle était vraiment, que c'était une merde, en fait. Elle avait cette croyance un petit peu, mais je suis personne, je suis nulle, là. Et en fait, elle transforme toute sa vie et puis elle devient vraiment, bah ouais, elle s'affirme, elle sait qui elle est, elle change totalement de vie. Donc c'est, ouais, j'ai plusieurs exemples comme ça.
Et toi, typiquement, quand tu penses à ces exemples-là, toi, ça te fait quoi? C'est quoi les sentiments que tu peux avoir justement sur ces types de transformations ou ces vies qui changent au final grâce à toi, tu vois?
Alors, grâce à moi en partie. Après, c'est surtout grâce à la personne.
Ouais.
C'est pas. Bah, oui, ok, grâce à moi, parce que je lui ai peut-être donné des outils, mais au final, c'est la personne qui fait le taf. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que les clients ont de la peine à comprendre parfois, c'est que eux-mêmes doivent faire le travail. Après, bien sûr, bah, beaucoup de fierté, et au final, de fierté pour la personne, hein, enfin, très fière de la personne. Mais c'est ça qui fait que, voilà, je continue ce travail, en fait, et que j'ai d'autant plus envie de continuer. Moi, tout le travail que je fais aussi sur les réseaux gratuitement. Et d'ailleurs, pendant longtemps, hein, je gagnais pas d'argent et j'essayais de donner mon maximum. C'était vraiment pour aider une personne. Et j'ai toujours dit, moi, si mon contenu permet de changer la vie d'une seule personne, mais j'ai déjà tout gagné, en fait.
Par rapport à ce contenu que tu partages, j'ai encore une ou deux questions pour toi. Par rapport à tout ce contenu, etc., il y a un truc qui saute clairement aux yeux quand on peut te suivre, que ce soit sur ta chaîne YouTube, que ce soit également sur Insta. C'est un truc qui peut paraître bête, mais qui est évident et qui, je pense, fait une partie de la réussite aujourd'hui de tes coachings, c'est le fait que tu montres l'exemple quotidiennement, ou presque. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es rôle modèle dans ce que tu proposes, c'est-à-dire bah, tu enseignes le bien-être aux gens, mais tu le fais aussi pour toi. Pourquoi j'en parle? C'est que il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. C'est quelque chose de bête. Alors, soit prennent soin d'eux, mais ne le montrent pas et ne montrent pas qu'ils sont rôle modèle, et je parle de coach, soit ne sont pas rôle modèle et ne reflètent pas l'image qu'ils devraient refléter. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que un coach doit être rôle modèle. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et est-ce que tu penses que ça a une part de responsabilité aussi dans la réussite de tes coachings, de toi et ton équipe aujourd'hui?
Alors, je pense que oui, clairement, mais je ne le fais pas de façon stratégique, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est que moi, de base, mes réseaux, c'est vraiment pour documenter ce que je fais pour moi. Donc, de base, c'était Instagram, c'est voilà, je partageais ce que je faisais en fait au tout début, et puis ensuite YouTube. En 2019, j'avais lancé ma chaîne YouTube pour documenter ma première préparation pour mes premiers concours de body. Et donc, en fait, mon but, c'était juste. Ben voilà, de documenter ce que je faisais et montrer aux gens, ben voilà, j'ai cet objectif, je vais faire ça pour y arriver, je vais vous montrer comment je le fais. Et en fait, ben, effectivement, ça, je pense, eu une part ça a été un facteur, en fait, dans la réussite de mon business aussi. Parce que, ben, comme tu le dis, j'ai montré l'exemple. En fait, je ne dis pas juste aux gens, si tu veux perdre du poids, il faut que tu sois en déficit calorique. Je le fais et je le montre. Et voilà, moi, j'applique ça pour moi. Regardez les résultats. Et c'est justement, les gens voient que ce que je fais, ça amène des résultats. Et du coup, ils se disent, OK, effectivement, ce qu'elle dit, elle l'applique en fait.
Je pense que c'est hyper important. En tout cas, c'est mon point de vue qui est très perso. Il y a des gens qui vont dire on peut être coach et pas forcément s'entraîner, ou on peut être coach et pas partager. Je pense que c'est hyper important, comme tu l'as très bien dit, de faire et de montrer. Parce qu'aujourd'hui, si on ne montre pas, personne ne le sait. Et puis aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, le métier, il se digitalise de plus en plus. Aujourd'hui, on ne va pas devant une salle de sport pour regarder comment c'est. Les gens, ils regardent juste ton compte Instagram, et grâce à ça, enfin, je caricature un petit peu le truc, mais c'est presque ça. Aujourd'hui, notre carte de visite, c'est notre compte Instagram, limite, ou notre chaîne YouTube, ou notre plateforme de podcast. Et c'est hyper important de montrer l'exemple.
Oui, non, clairement. Après, il y a aussi quelque chose, en tout cas dans ce business-là, c'est que même si tu ne le montres pas forcément, tu montres pas forcément, tu filmes pas tes entraînements ou tu montres pas ce que tu manges, etc., ça se montre sur ton physique, en
Oui,
fait.
bien sûr. Oui, bien sûr.
C'est, en fait, ton physique, c'est aussi un petit peu ta carte de visite. C'est, si tu t'entraînes pas, oui, ça va se voir. Après, j'ai envie de dire, il y a certains des meilleurs coachs n'ont pas forcément les physiques les plus impressionnants. Et vice-versa, c'est pas parce que tu as un physique super impressionnant que tu es un bon coach, ça c'est aussi vraiment une croyance. Quand on me dit je veux que tu sois ma coach parce que je veux te ressembler, ça me tue, je suis là, non. Vraiment, le physique d'un coach ne veut rien dire sur ses compétences et vice-versa, mais après, oui, effectivement, il doit quand même. C'est dur à expliquer,
Je
mais je trouve
dirais,
que.
j'utiliserais le mot inspirer les gens.
Oui.
Est-ce que tu rejoins ce truc-là?
Ouais, quand même.
Pas forcément, voilà, comme tu l'as dit, hein, on n'est pas obligé d'être ultra balèze, mais juste inspirer les personnes, et pas forcément juste sur un physique, mais également sur les habitudes, sur les routines, sur la façon d'être aussi, parce que je pense que l'énergie qu'on dégage, le smile, tu vois, je pense que ça fait partie des choses. Attention, je parle vraiment pas que de physique quand je parle de ça. Je parle de quelque chose de manière générale. En fait, j'ai envie de dire qu'on doit inspirer les gens de manière à ce qu'ils aient envie d'être plus au contact, avoir un contact encore plus proche et plus de proximité avec nous. C'est un peu ça que je ressens moi aujourd'hui.
Ouais, totalement. Après, je pense que aussi il suffit en fait d'être toi-même et d'être une bonne personne. Si tu es une
Parce
bonne
qu'il y a
personne,
quand même plein d'enculés, ça faut le dire.
voilà. Et au final, en fait, l'énergie que toi tu vas dégager, tu vas attirer les personnes en fait qui sont un peu sur la même longueur d'onde que toi.
Après, tu peux faire du business et être un enfoiré aussi, hein, parce que tu vas attirer aussi des enfoirés. Donc, c'est pas gênant.
Ouais, le problème quand t'es un enfoiré, c'est que tu vas aussi attirer les naïfs et les avares, mais voilà, ça, c'est le jeu.
Mais, ouais. Et j'ai un dernier truc qui me vient. On est dans un métier où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ego aussi, ce qui est normal en vrai, parce que souvent, bah voilà, on est arrivé dans ce métier-là aussi parce qu'on aimait peut-être bien le sport, l'entraînement, aller à la salle, etc. Souvent aussi parce qu'on a lu trois bouquins et on a l'impression qu'on connaît un petit peu tout sur l'entraînement, la nutrition ou quoi que ce soit, et souvent on se remet pas forcément en question, notamment quand on débute. J'ai l'impression que les gens plus expérimentés ont beaucoup moins d'ego que ceux qui démarrent, mais bon, ça, c'est
Moi, je dis toujours que plus on en sait, moins on en sait.
Ouais, exactement.
Vraiment, plus on se développe dans le coaching, moins on a presque. Des fois, moins on a l'impression d'être légitime. En fait, quand on commence le coaching, on a l'impression qu'on n'est pas légitime parce que voilà, on commence et on se dit, oh, j'ai pas les compétences, les connaissances. Tout à coup, notre confiance en nous explose parce qu'on se dit, non, je suis le meilleur coach. Et puis, en fait, au fil du temps, voilà, plus on en sait, moins on en sait.
Et par rapport à ça, il y a un truc que tu fais et sur lequel que je voudrais mettre en avant et te poser des questions là-dessus, c'est que tu es toi-même coach et tu te fais coacher. Ok, donc ça, j'ai vu sur tes vidéos YouTube, j'ai vu ton coach, j'ai vu le passage de Zoom que tu fais avec lui, etc. Pourquoi c'est important, en fait, même si on est coach, même si on sait, de se faire accompagner, de se faire aider?
Alors, il y a plusieurs raisons. Je dirais que la principale, c'est que on n'est jamais objectif envers nous-mêmes. Donc, dès que ça nous touche nous-mêmes, on prend pas les bonnes décisions parce que on se dit. On n'arrive pas à se voir vraiment comme on est, et en fait, il y a l'émotionnel qui entre en jeu. Je donne un exemple, si on veut perdre du poids, on a l'impression que ça ne va jamais assez vite. Donc, si nous-mêmes, on gère notre alimentation, on va peut-être réduire les calories beaucoup trop rapidement. Alors qu'un coach, il va dire, non, mais regarde, tu progresses à bon rythme, tranquille, on a le temps, là, on ne change rien, etc. Donc, d'abord, c'est une question d'objectivité. À ce niveau-là, il y a aussi la décharge mentale. C'est que quand on doit prendre des décisions pour nous, c'est très difficile. Et du coup, on se pose toujours la question, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je devrais faire autrement et tout ça? Et ça, c'est fatigant. Donc, quand on a un coach, c'est tu regardes ce que je dois faire, tu décides, tu t'en occupes, tu me dis quoi faire et j'applique. Et voilà, et ça nous décharge complètement et c'est vraiment une charge mentale en moins. Et puis, je dirais la troisième raison, c'est que quand on doit rendre des comptes à quelqu'un, on est quand même plus adhérent. Quand c'est pour nous, peut-être que des fois on se dit, oh, ben ok, je fais ça comme ça, c'est pas grave, demain je changerai, etc. Alors que quand on doit dire à quelqu'un, ben, ce jour-là, je vais vraiment respecter le plan exactement comme tu me l'avais dit de faire, ben, du coup, voilà, on est un petit peu moins adhérent, on est peut-être un petit peu moins régulier parfois, et du coup, ça nous aide à rester beaucoup plus dans les rails et puis à mieux progresser en fait.
Je trouve ça, j'appelle ça le comble du coach, c'est d'expliquer aux gens qui doivent se faire coacher et de ne pas le faire soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est valable dans le sport, donc c'est-à-dire notre propre entraînement selon nos objectifs. Mais même, moi, j'en parle généralement, c'est sur l'aspect business. Comme tu le sais, moi, je vends des accompagnements pour les coachs qui se développent, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent tout faire tout seul et qu'ils peuvent réussir et qui pensent n'avoir besoin d'aide de personne. Et je dis, c'est quand même un comble de penser ça, alors que toi, tu expliques toute la journée à des gens qu'il faut qu'ils se fassent coacher pour atteindre leurs objectifs, quoi.
Ouais, non, clairement, clairement. Et t'apprends aussi beaucoup sur toi-même, en fait, avec un coach. Honnêtement, moi, le coaching avec Steven, il m'a énormément appris sur moi-même et lui m'a beaucoup appris. Enfin, j'ai beaucoup appris grâce à lui.
Et est-ce que tu penses que tu te feras coacher tout le temps à partir de maintenant?
Non, alors actuellement, je ne me fais pas coacher parce que ben là, je ne compte même pas mes macros. Je pense qu'il y a des phases. Après, ouais, moi, j'avais commencé le coaching avec lui principalement ben, pour mes. Enfin, au début, quand j'ai commencé, c'était pour mes compétitions. Et à partir de là, j'ai continué le coaching pendant 4 ans. Et puis là, je suis en off. J'ai besoin d'une pause et puis juste de manger intuitivement, etc. Et j'ai pas forcément un objectif aussi précis qu'avant. Donc, je pense pas qu'il y a besoin d'être coaché vraiment tout le temps, tout le temps. Mais faire en tout cas une expérience de coaching à un moment et surtout si on a un objectif, en fait, si on a un objectif précis, que ce soit perte de poids, prise de masse, enfin, ou objectif de performance, atteindre des PR, etc. Je pense que là, vraiment, un coach, c'est nécessaire.
Bon, je disais que j'avais plus que deux questions, mais en fait, j'en ai encore une ou deux. Par rapport à tout ce que tu as pu faire et par rapport à tout ce qu'on a discuté depuis le début de l'épisode ensemble, et depuis ton lancement en fait en tant que coach, qu'est-ce que tu ferais peut-être différemment si tu devais revenir un petit peu en arrière entre 2018 et aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais peut-être différemment ou quel conseil t'aimerais donner à Chloé qui se lance en 2018 dans le coaching?
Tu vas pas aimer ma réponse, mais
Aucun.
je changerai rien en fait parce que même si j'ai pu peut-être faire des erreurs, et encore là, j'ai pas vraiment d'exemple concret à te donner, bah, c'est comme ça que tu apprends en fait. C'est en faisant des choses, et puis j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui si j'avais fait les choses différemment. Je dirais juste d'y aller en fait, simplement. Voilà, si tu as envie d'être coach, bah, vas-y, lance-toi. Mets en place des choses, essaye de trouver tes premiers clients et puis ensuite vas-y, continue et tu vas apprendre au fur et à mesure du temps en fait et t'améliorer avec l'expérience.
Ta question, ta réponse me va très bien parce que ça me permet de t'en poser une autre. Ça me permet de t'en poser juste une autre. C'est du coup, quels sont les éléments clés que tu relèverais qui ont fait que ça a bien marché pour toi jusqu'à aujourd'hui?
Je dirais être authentique. Dans le sens, je l'ai un petit peu dit avant, mais moi, en tout cas, les réseaux n'ont jamais été stratégiques. Dans le sens où je ne réfléchis jamais à l'avance de ce que je vais poster. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. Peut-être j'aurais beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de clients si j'étais plus stratégique. Mais au final, je partage ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie. J'ai des idées comme ça. Je me dis, OK, là, j'ai envie de parler de ça, etc. Mais je pense que c'est ce qui fait ma force aussi parce que du coup, je dis les choses telles qu'elles sont et je ne vais pas essayer d'embellir les choses ou de mentir ou de vendre des choses avec des belles promesses magiques. Je suis très cash, j'ai tendance à dire les choses que les gens doivent entendre plutôt que ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais tout ça m'a permis d'avoir une communauté en fait qui est très proche et qui comprend vraiment les messages que j'essaye de faire passer et une communauté qui n'est pas fake. Donc voilà, je suis un petit peu l'inverse du fake, on va dire, ce qu'on peut voir chez certains influenceurs parfois. Mais c'est ça qui m'a permis de créer enfin de rassembler la communauté que j'ai aujourd'hui.
Tu te considères comme influenceur aujourd'hui, toi?
Non. Non. Enfin, disons que je fais la différence entre créatrice de contenu, qui justement essaye d'apporter de la valeur, et influenceur, c'est vraiment travailler des marques pour vendre, en fait, pour les marques. Moi, je ne fais aucune collaboration. J'ai Nutri qui est mon sponsor. Mais voilà, je fais la différence entre les deux. Ouais. Je suis coach en ligne avec une présence sur les réseaux.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? Ma question est plutôt, c'est quoi la suite pour toi? C'est quoi tes objectifs et vers quoi tu veux que Fit by Chloé tende dans les prochaines années?
Alors, j'ai pas envie de dire développer la team parce que là, j'ai pas forcément envie d'avoir plus de coachs que ce que j'ai maintenant. Je préfère plutôt améliorer, disons, la qualité de la team, plutôt que vraiment grandir en termes de chiffres, de monde. Surtout que j'intègre des personnes seulement vraiment en qui j'ai 100% confiance et que je sais que le niveau de qualité match en fait celle de la team. Je dirais bah, aider de plus de monde. Donc voilà, forcément avoir plus de clients au sein de la team. Sinon, j'ai aussi comme... Ça fait un petit moment que j'ai ce projet et que je n'avance pas beaucoup. Bon, j'ai eu ma prep l'année passée, etc. Mais j'aimerais bien développer aussi une formation, justement, pour devenir coach, ou pas forcément pour devenir coach, mais pour avoir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir ben voilà, être autonome dans la gestion de son alimentation et de ses entraînements. Donc ça, c'est principalement les deux principaux projets que j'ai.
Bon, bah écoute, la prochaine fois que je t'inviterai sur le podcast, on fera le point pour voir comment ça a pu avancer.
Voilà.
Bon. Et est-ce que tu as un... Je termine avec ça, tu en as déjà dit beaucoup et il y aura peut-être un peu de redites, mais j'aime beaucoup terminer les épisodes de cette manière-là. C'est si tu avais un mot pour des personnes qui nous écoutent, soit des personnes qui veulent devenir coach, soit des personnes qui le sont et qui souhaitent développer leur activité aujourd'hui, demain ou dans les prochaines années, c'est quoi les conseils que tu donnerais? Et j'attends de toi d'être la plus authentique possible.
Bah, je dirais d'abord de croire en vous, dans le sens vraiment si vous avez envie de développer ça, allez-y à fond en fait. Ne pas faire des, comment dire, half-ass efforts.
Faire la moitié du chemin ou être à moitié dans le truc, quoi.
Être à moitié dans le truc et dire oui, je peux peut-être un petit peu, mais pas complètement. Non, allez-y, vraiment, allez-y à fond,
All
impliquez-vous.
in.
All-in, voilà, exactement. Et croire en soi, surtout croire en soi. Et surtout offrir en fait un service en adéquation avec vos valeurs. Et ne pas essayer de voilà d'offrir des promesses magiques ou de dire aux gens dans 2 mois tu auras perdu 10 kilos, des choses comme ça. Non, essayez d'être vrai en fait dans ce que vous offrez et d'être vrai avec les gens en fait. Et de considérer les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des humains et pas des machines. Et puis vraiment essayer de s'adapter en fait à la personne.
Chloé, merci beaucoup pour les partages aujourd'hui. Merci pour ton temps aussi. Merci aussi pour tout ce que tu as partagé. Franchement, c'est vraiment cool. S'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Où est-ce qu'ils peuvent retrouver tout ce que tu fais?
Principalement sur Instagram, donc sur @feedby Chloé.
Ok. Tu as aussi une, tu, donc c'est Instagram le premier. Tu as aussi une chaîne YouTube, un podcast, etc. Mais principalement Instagram.
Principalement Instagram. Après, depuis moi, ma bio Instagram, ben voilà, il y a les liens vers mon podcast, vers ma chaîne YouTube, vers mon site internet, feedbychloé.com, et puis le compte de la team, donc team feedby.
Au top. Écoute, merci encore. Merci d'avoir accepté l'invite, d'avoir été ici. Et puis, comme je te l'ai dit juste avant, j'espère pouvoir refaire un épisode prochainement avec toi.
Très volontiers.
Bye bye.